Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la première visite radiophonique de l'année 2024 avec Caroline Entraigue du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro et bonne année.
Bonjour à tous et bonne année.
Et Bénédicte Bougnol du Pays d'art et d'histoire Mandelotte en Gévaudan. Bonjour Béné et bonne année.
Bonjour et bonne année.
Voilà, Béné qui remplace Nelly qui est un peu fatiguée en ce début d'année. Et c'est aussi peut-être parce que Béné est une spécialiste de l'endroit que l'on va aller visiter. Mais ça, pour l'instant, je ne sais pas, car je ne sais pas où on va. Car où on va aller où aujourd'hui ?
On va non loin de Mende, sur une commune que l'on longe très souvent, mais que l'on connaît très peu.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'art et d'histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Voilà, très peu de route. Caro, on est arrivé où ?
Alors, on est ici sur les contreforts de la Margeride et les cosses calcaires du Crouzet et du Causse d'Auge. On est juste avant la vallée du Lot. On est ici dans une diversité géologique assez riche, entre le calcaire, le schiste, le granit et le grès. Nous sommes au cœur d'un village historique, à environ 1000 mètres d'altitude, qui est blotti sur un replat, qui est orienté plein sud face à Mende et qui se protège du vent du nord. Nous sommes au pied du vallon du Remenou et nous sommes ici au Château Nouveau, le Chastel Nouvel, à 7 km au nord de Mende. On est sur une commune qui est composée du village principal qu'on va visiter aujourd'hui, mais on a également 6 hameaux, La Fagette et Coulagnier au nord, Aspre et Asprette à l'est, Alterac et le Crouzet juste à côté du village.
Béné, on connaît les origines du village ?
Alors, on ne connaît pas très très bien les origines du village, hein, c'est plutôt méconnu. Alors, on sait que le territoire est occupé depuis très longtemps. On a retrouvé quelques traces datant de la préhistoire, mais c'est surtout à partir de l'Antiquité qu'on a retrouvé des vestiges plus importants, parce que ce territoire a été fouillé par des archéologues amateurs au XIXe siècle, hein, les archéologues assez connus lozériens, comme le docteur Charles Morel. Et donc, il a fouillé plutôt vers Alterac et il a retrouvé de nombreux vestiges gallo-romains, alors qui dateraient à peu près du 3e siècle. Et donc, il a notamment découvert des constructions, des foyers en briques, des objets et des poteries surtout.
On sait d'où vient le nom du Chastel Nouvel ?
Oui, alors on sait d'où vient ce nom. Hein. Chastel Nouvel, ça fait bien sûr référence à un château, mais voilà, c'est pas tout à fait un château comme on l'entend. En fait, on a des textes qui datent du Moyen-Âge, un texte notamment qui date de la fin du XIIIe siècle, et on retrouve dans ce texte le nom de Castrum Noël de Malavetula. Alors Castrum, vous vous rappelez, hein, on en a déjà parlé lors de la visite du château du Tournel. C'est le Castrum, c'est un château et un village qui forment un ensemble fortifié. Donc voilà, il y avait peut-être un Castrum au Chastel Nouvel. Mais on pense plutôt en fait qu'il s'agissait d'un fort. Quand on parle de château, voilà, c'était plutôt un fort qu'on trouvait au Chastel Nouvel, parce qu'en fait, il faut savoir que ce territoire, du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, appartenait au domaine épiscopal. Voilà, l'évêque était alors seigneur de Mende, et le territoire du Chastel Nouvel appartenait à son mandement. Pour vous rappeler que le territoire de l'évêque, il s'étendait le long de la vallée du Lot, de Badarou jusqu'au Villard après Chanac. Et donc le Chastel Nouvel faisait partie de ce mandement et appartenait plus spécifiquement au chapitre cathédral de Mende. C'est donc le Chastel Nouvel qui était un fief du chapitre. Et donc le chapitre possédait des terres. C'était important de posséder des terres pour le clergé parce que ça lui permettait d'en tirer un revenu et d'assurer leur subsistance. Donc en fait, il ne faut pas imaginer qu'ici, au Chastel Nouvel, il y avait un château, comme son nom pourrait l'indiquer. C'était plutôt un fort, une place forte, un poste de garde. Il y avait sûrement des soldats qui étaient placés ici pour garder un point stratégique, pour protéger Mende en fait, qui était la ville épiscopale. Mais ce n'était pas un lieu de résidence, ni de stationnement permanent. En fait, vraiment, le Chastelnouvel, c'était un fort, c'était un dispositif défensif avec une fonction militaire.
Il en reste quelque chose de ce fort ?
Alors, on va le voir un peu plus loin, mais simplement, on peut te dire que tout cela va changer vers la fin du XVIe siècle, puisque le village va être touché par les guerres de religion, un peu comme de nombreux villages lozériens. Mais ici particulièrement parce qu'en fait, les troupes huguenotes, avec le capitaine Mathieu Merle, vont arriver ici au Chastelnouvel en décembre 1579, juste avant d'aller attaquer Mende et la cathédrale. Voilà, dans les textes sont mentionnés que Mathieu Merle va venir en 1580, après avoir attaqué la ville de Mende, pour raser le fort du Chastel.
Alors là, on va se déplacer, on va dans le centre-village. Donc là, on était à l'entrée du village pour cette magnifique vue sur cette vallée sur Mende. Et là, on va où, Caro ?
Mais là, on se dirige du coup dans le castrum, qui n'était pas vraiment un castrum, comme l'a dit Bénédicte. Donc vraiment dans le cœur historique du Chastelnouvel.
Donc là, on est arrivé au cœur du village, Caro ?
Oui, donc on est dans cette partie vraiment sur ce promontoire rocheux, qui est un promontoire de grès, où on est un petit peu en surplomb du Valat, dont on parlait tout à l'heure. Et on est dans cet espace un peu circulaire autour de la rue du château. Et donc là, nous sommes au cœur de ce cercle, qui était voilà, la partie fortifiée dont nous a parlé Bénédicte tout à l'heure. Tout le long, on peut voir à l'intérieur des façades, des habitations qui ont été aménagées à l'emplacement et sur les fortifications. On peut lire notamment des ouvertures qu'on va retrouver principalement à l'époque médiévale, ces fameuses caves un peu à mi-hauteur avec un arc surbaissé. Souvent, quand on trouve ce genre d'ouverture, on est face à une architecture médiévale. Si on regarde cette magnifique maison aux menuiseries bleues et aux volets bleus, on va trouver aussi des fenêtres avec des traverses, donc avec une partie horizontale qui coupe la hauteur en deux. Toutes les maisons de ce tour sont, comme je dis, sur un demi-niveau. On a à chaque fois un petit perron qui est aménagé côté intérieur de l'ancien fort. Et ensuite, on va se déplacer de l'autre côté pour faire le tour de cette rue du château. Et là, on verra vraiment la hauteur, en fait, des fortifications qui préexistaient à l'époque du Moyen-Âge.
Oui, donc là, juste à côté, on voit un arrachement sur un mur. J'imagine qu'il y avait, quoi, Caro ?
Pour décrire l'arrachement, donc on voit vraiment que le mur n'est pas plat, mais on voit des pierres qui ressortent. Donc c'était l'endroit des fortifications. Est-ce qu'il y avait une tour, une porte ? Voilà, on ne sait pas exactement la forme de ces fortifications-là, mais sur ce mur de façade qui est juste à l'entrée de cette petite circulade, on a vraiment ces pierres arrachées qui montrent l'emplacement de cette fortification. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des énormes blocs de grès, à la fois sur le côté et sur le pied des murs, on voit vraiment que les constructions sont faites à même la roche.
Donc là, on vient de longer donc ce mur, on voit bien la hauteur. C'était le fort, Caro ?
Oui, c'est ce qui était certainement les fortifications. Sur la façade, quand on fait le tour de la rue du château, on voit des fenêtres avec des accolades, donc la petite dessin qui fait une pique sur deux fenêtres. On pense, Béné, si je ne me trompe pas, que c'était la loge des soldats ?
Oui, c'est ça, c'était un poste de garde pour les soldats, puisque même de l'autre côté, quand on a la chance de pouvoir rentrer, aujourd'hui c'est une grange, quand on a la chance de pouvoir rentrer à l'intérieur, on voit un petit espace qui est ménagé, voilà, pour que les gardes puissent être postés là et observés, puisqu'on domine vraiment le paysage.
Et quand on parlait tout à l'heure des constructions qui sont faites à même la roche, ici on voit vraiment la hauteur de fortification, qui est en fait pour moitié le rocher naturel, quoi.
Et juste pour finir, pour ces éléments de fortification, on voit qu'au fil du temps, en fait, tout ça a été transformé. On s'est servi des murs, on s'est servi des pierres. Et donc aujourd'hui, ce sont des habitations ou des bâtiments agricoles voilà, qui se sont servis de ces fortifications.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurai
j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Un genou ne fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon de mauvais jour, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dans mes rêves, moi je prends ma casquette et deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours.
Allez, pour nos auditeurs et auditrices, on peut vous l'avouer, il pleut, donc là on vient de se mettre à l'abri dans le four à pain.
Oui, donc sur la commune, chaque petit village, donc les six hameaux dont on parlait tout à l'heure, possède son four à pain. Alors, le four à pain, il fait partie vraiment des trois éléments essentiels dans la vie rurale. On en parle souvent dans plusieurs visites, mais on va retrouver le métier à ferrer, le ferradou, qui est juste à côté. Et on va retrouver aussi la fontaine, l'avoir, abreuvoir, qui est aussi juste à côté. Donc sur ce petit périmètre à l'entrée de la rue du Château, on va retrouver les éléments caractéristiques des villages ruraux de Lozère. On va retrouver aussi pas mal de constructions agricoles sur cette deuxième tranche en dehors des fortifications. Beaucoup de corps de ferme avec des cours... plutôt des bâtiments en L, voilà, qu'on va retrouver sur cette partie autour de l'ancienne fortification.
On vient de terminer le tour de l'ancien fort et on vient de passer devant l'ancien accès au village. En fait, aujourd'hui, quand on veut arriver au Chastel-Nouvel, on passe par la route départementale, mais elle n'a pas toujours été là. Et surtout, on passait par ici, par ce petit pont au-dessus du Remenou, qui donnait accès au village directement.
Allez, on est remonté vers ce qu'on pourrait appeler le nouveau centre du village. On est devant l'église. Alors, ce n'était pas l'église d'origine, Bénet ?
Et non, cette église, elle est récente, on va le voir. Mais il y avait en fait une autre église, un autre emplacement pour l'église au Chastel, qui se situait plus proche du fort, en fait. Donc, il y avait une église qui avait été construite au Moyen-Âge, mais celle-ci a été détruite lors des guerres de religion. Ensuite, on va la reconstruire en 1605 à l'initiative du chapitre de Mende, qui vont choisir l'architecte Pierre de Levesville. Cet architecte, vous en avez peut-être parlé lors de la visite de la cathédrale de Mende. Il travaillait sur le chantier de reconstruction de la cathédrale et donc il a aussi travaillé au Chastel. Mais on n'a aucun reste de cette église parce que celle-ci aussi a été détruite. Et donc aujourd'hui, il ne reste plus rien de l'ancienne église ni même de son ancien cimetière puisque cet espace a été transformé en jardin public. Et donc la nouvelle église, on l'a déplacée plutôt sur le haut du village. On est ici devant et le début de la construction date de 1874 et elle a été inaugurée en 1876.
Architecturalement, il y a quelque chose à dire, Caro ?
Bah, c'est une église assez classique pour la fin du 19e siècle. C'est le même architecte que l'église de Badaroux. Et c'est une reconstruction assez classique, voilà, réalisée par les architectes diocésains. C'est un plan en croix latine. À l'intérieur, on a des voûtes d'ogives, donc les voûtes avec une partie un peu plus pointue sur le haut. Et on a cette grande flèche qui surmonte la porte d'entrée. Elle est bâtie en grès de couleur ocre rose qui vient de la carrière ici du Chastel. Et le clocher a été entièrement reconstruit en 1888, donc décidément les églises ont beaucoup bougé au Chastel. On ne va pas aller à l'intérieur, puisque c'est un intérieur qui est assez sobre, hein, à la fois sur l'architecture et l'ornement. Mais voilà, c'est une architecture très typique 19e des églises que l'on va construire assez grandes pour les gens de l'époque qui étaient très nombreux.
Juste, on ne va pas aller à l'intérieur, mais pour les auditeurs, hein, si vous avez l'occasion de rentrer à l'intérieur de l'église du Chastel, je vous invite à jeter un œil au monument aux morts. Alors, c'est un monument aux morts pour se souvenir des disparus lors de la guerre 14-18, mais celui-ci est un petit peu particulier parce qu'il a été construit par un menuisier du Chastel, hein, qui s'appelait Pierre-Jean Peytavin. Il était menuisier au Chastel, mais il a été aussi poilu puisqu'il a fait la guerre 14-18, et donc quand il est revenu au village, il a voulu se souvenir des combattants et donc il a construit ce monument aux morts.
Cludo, je me permets de te reprendre, puisque devant l'église, nous étions dans le nouveau centre. Et ici, nous sommes dans le nouveau centre. On est arrivé face à la nouvelle mairie qui a été construite dans les années 90. Donc c'est tout le cœur administratif qui s'est déplacé plus au nord, sur une partie qui était auparavant marécageuse et qui a été drainée. On va retrouver autour de nous de nombreux équipements, l'école publique, le boulodrome derrière la mairie, l'école privée, elle était contre l'église, on a la salle des fêtes, la salle intergénérationnelle, la maison des aînés, le local du foyer rural, le jardin public. Donc ici sur ce nouveau centre vont se regrouper vraiment tous les équipements collectifs et administratifs. Il faut savoir qu'en fait, c'est grâce à son positionnement stratégique à proximité de Mende que le Chastel s'est largement développé dans les dernières décennies. Dans les années 1970, la population ne comptait pas plus de 300 habitants. Le village était concentré vraiment sur l'ensemble fortifié et le promontoire du Valade du Remonou. Et puis depuis, la population a cessé d'augmenter. On est, je crois, quasiment à 1000 habitants sur le Chastel. Et donc cette augmentation démographique a engendré un développement urbain assez conséquent autour de village initial, mais aussi sur l'ensemble des autres hameaux. Et on a eu de nombreuses extensions à la fois résidentielles et à la fois, comme on voit ici, des nouveaux quartiers d'équipement pour accueillir toute cette nouvelle population.
Et là, on est à la mairie. Sur le petit jardin en face de la mairie, c'est sa manière qu'on voit, Béné ?
Et oui, c'est ça. Bah, je vous disais qu'il y avait quelques vestiges préhistoriques. Et donc là, il y a un menhir. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce menhir. On sait simplement qu'il a été déplacé de quelques mètres lors des aménagements de la mairie. Mais on connaît son nom. Voilà. Il s'appelle Peiro Grosso, la pierre grosse.
Et donc juste à côté, la mairie, qui va faire l'objet d'une rénovation énergétique sous peu. Ce qu'on peut juste noter sur ce bâtiment de la mairie des années 90, c'est la reprise au-dessus de la porte d'entrée de la mairie, dans la verrière de la salle du conseil à l'étage, la reprise du logo de la mairie, ce mélange entre le Y et le M, voilà, qui est le logo de la mairie du Chastel.
Merci Caro. Est-ce qu'on a une actualité sur le Chastel Nouvel ?
Déjà, on parlait des espaces publics que l'on a traversés pendant toute cette visite, qui ont été refaits récemment et qui sont voilà, tout neufs, de pavés de granit.
Et moi, si je peux ajouter, voilà, je voulais juste mettre en lumière une association qui travaille beaucoup pour la mise en valeur du patrimoine au Chastel-Nouvel. C'est l'association Le Bouffadou. Alors, c'est une association qui a été créée en 1999, mais qui est encore très active aujourd'hui. Et donc, voilà, ils valorisent leur patrimoine et en plus, ils le restaurent. Et donc là, ils ont un chantier de rénovation du moulin Ébrard au Chastel. Voilà.
Et on n'a pas parlé, mais il y a également le bâtiment de la salle intergénérationnelle où on est passé juste devant, qui vient juste également d'être remanié.
Une anecdote pour Brillant Société ?
Ludo, est-ce que tu sais qu'il y a un musée au Chastel-Nouvel ?
Je sais, il me semble savoir même que c'est un des plus petits musées de France.
Exactement, au Chastel-Nouvel, alors plus précisément à Altérac, ménagé dans le four à pain du hameau, on trouve le musée de la vie rurale d'autrefois.
Et donc, il permet de découvrir la vie dans la campagne au début du XXe siècle avec plus de 300 objets qui sont exposés. Donc on invite nos auditeurs à s'y rendre.
Donc un musée à visiter. Béné, tu parlais aussi de hameaux. Il y a des choses à voir dans ces hameaux ?
Oui, je vous invite vraiment à aller vous promener autour du Chastel-Nouvel pour visiter tous ces petits hameaux magnifiques qui font cette commune. Et parce qu'il y a un patrimoine très riche, hein, on peut compter jusqu'à 21 moulins sur la commune et des croix magnifiques, des croix de chemin. Et je crois qu'on peut en recenser, on en recense 26.
Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous savez où on va aller le mois prochain ?
Donc le mois prochain, on ira aussi visiter comme ça des villages dont on ne connaît pas encore suffisamment l'histoire.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire des Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.